musique. Vous écoutez Radio France Internationale, il est 9h à Port-au-Prince, 13h en temps universel.
RFI Midi, Anne Contenaire.
Une demi-heure sur le continent américain. Nous reviendrons dans quelques minutes sur la mort d'un policier kényan cette semaine en Haïti. Cela s'est passé dans le département de l'Artibonite et les gangs qui l'ont tué ont aussi mis en scène leur opération. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. On y revient juste après le journal. On parlera aussi de littérature, des rencontres internationales du livre francophone de Kigali qui mettent les auteurs caribéens à l'honneur cette année. Et puis l'actualité des Outre-mer française, Serge Massot, la ministre déléguée au tourisme, termine un déplacement en Martinique.
Oui, Nathalie Delatte souhaite renforcer l'offre d'hébergement touristique sur l'île. Un message entendu par le maire du Marin, vous l'entendrez.
À tout à l'heure. Et tout de suite donc l'essentiel de l'actualité internationale. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On commence votre journal au Proche-Orient. Israël a pilonné la banlieue sud de Beyrouth à la mi-journée après 4 mois de trêve.
Dans un quartier peuplé, bastion du Hezbollah, des frappes israéliennes immédiatement condamnées par Emmanuel Macron, qui reçoit d'ailleurs son homologue libanais aujourd'hui à l'Élysée. Le président français estime les bombardements israéliens inacceptable. Peu avant, l'armée avait aussi frappé le sud du Liban, faisant un mort et 18 blessés. Israël entendait riposter aux 2 roquettes envoyées en direction de son territoire. À Beyrouth, le récit de Paul Ralifé.
Des scènes de chaos indescriptibles ont été enregistrées dans la banlieue sud de Beyrouth après une menace israélienne de prendre pour cible un immeuble dans cette région densément peuplée. Des habitants en panique ont fui à pied, en voiture ou en motocyclette vers des quartiers périphériques et des parents affolés se sont rués vers les écoles pour récupérer leurs enfants. Après 2 tirs d'avertissement, un drone israélien a finalement tiré plusieurs missiles sur l'immeuble désigné qui a été sérieusement endommagé. Des avions et des drones israéliens ont mené une vague de raids contre des localités du sud du Liban malgré le fait que le Hezbollah ait nié toute implication dans les tirs de roquettes. L'un des projectiles a été intercepté par le dôme de fer et l'autre s'est abattu en territoire libanais. Le premier ministre Nawaf Salam a convoqué le chef de l'armée libanaise et lui a ordonné d'enquêter rapidement pour identifier les auteurs des tirs de roquettes. Le chef du gouvernement a qualifié ces tirs d'actes irresponsables qui menacent la sécurité et la stabilité du Liban et a une nouvelle fois appelé tous les groupes et milices à remettre leurs armes à l'armée libanaise. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Le président libanais assure que tout indique que le Hezbollah n'est pas responsable des tirs de roquettes vers Israël. Joseph Aoun demande que l'armée arrête les auteurs des tirs. Ces frappes interviennent alors qu'une nouvelle fois, des milliers d'Israéliens ont défilé hier soir à Tel Aviv et à Jérusalem pour dénoncer la dérive illibérale du gouvernement. Malgré les protestations, le Parlement a adopté une loi qui affaiblit le pouvoir des juges face aux politiques. L'opposition a immédiatement déposé un recours devant la Cour suprême.
L'autre actualité du jour, c'est ce violent séisme qui a fait trembler le sol en Birmanie et jusqu'en Thaïlande et en Chine.
Très difficile pour le moment d'évaluer les dégâts. La Birmanie annonce déjà 20 morts, mais le bilan semble très provisoire. Les journalistes présents à Naypyidaw décrivent des centaines de blessés qui affluent à l'hôpital. Signe de l'ampleur de la catastrophe, la junte birmane, très peu encline à accepter une présence étrangère sur son sol, lance un appel à l'aide internationale et décrète l'état d'urgence dans 6 régions. Il faut dire que le tremblement de terre enregistré est d'une magnitude très élevée, 7,7, puis une réplique à 6,4 quelques minutes après, et la roche a cassé presque en surface, ce qui augmente encore la force des secousses. Christophe Vigny, sismologue et directeur de recherche au CNRS.
L'épicentre du séisme de ce matin n'est pas très profond, ce qui est tout à fait standard pour les séismes qui se produisent sur ce qu'on appelle les failles décrochantes à l'intérieur des continents. C'était le cas pour la Turquie il n'y a pas très longtemps et c'est encore le cas aujourd'hui. Et du coup, oui, ces séismes superficiels font des secousses à la surface qui sont encore plus fortes que s'ils étaient plus en profondeur. Un séisme continental, ça secoue 3 fois plus qu'un séisme dans l'océan, et un séisme près de la surface surface, ça secoue trois fois plus qu'un séisme plus loin de la surface. Donc vous êtes dans un continent où vous êtes près de la surface, c'est 10 fois plus fort comme secousse. Donc c'est vraiment très fort. Et la magnitude du séisme de ce matin est de 7,6, c'est très proche de 8. Donc c'est vraiment un très gros séisme qui a dû secouer très très fort. Et il est juste, l'épicentre est juste à côté de la grande ville de Mandalay. Donc je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup de dégâts dans cette ville.
Le sismologue Christophe Vigny, interrogé par Lucille Gimbert. Et en dehors de la Birmanie, en Thaïlande voisine aussi, les dégâts pourraient être considérables. Même scène de panique, des immeubles se sont effondrés. L'état d'urgence a été décrété à Bangkok.
Aux États-Unis, ce n'est finalement pas Elise Stefanik qui représentera son pays aux Nations Unies.
Elle aurait dû être confirmée, au poste d'ambassadrice par le Sénat dans quelques jours. Mais Donald Trump renonce à cette nomination. Son administration ne peut pas se passer de cette républicaine au Congrès. Les explications de notre correspondante à New York, Karine Houten.
Elise Stefanik se voyait déjà à la table du Conseil de sécurité. Elle, qui avait été la femme la plus jeune, élue à la Chambre des représentants à 30 ans en 2014, elle qui avait déjà inscrit sur sa bio Instagram « ambassadeur à l'ONU désigné ». Lors de son audition devant le Sénat, elle avait affiché une position ultra pro-israélienne et la détermination caractéristique de la jeune garde trumpiste. Mais le président américain a décidé hier que d'autres pouvaient faire un bon boulot à l'ONU. Il a surtout besoin d'elle pour faire passer ses nouvelles lois en s'assurant une majorité à la Chambre des représentants où elle occupe le siège d'une circonscription du nord de l'État de New York. Pour l'instant, les républicains occupent 218 sièges, les démocrates 213, et des élections sont prévues dans les semaines à venir pour pouvoir distribuer 4 sièges devenus vacants. Devoir réorganiser une élection pour remplacer Elise Stefanik, remettre en jeu un 5e siège, ce n'est pas si risqué en soi, mais la gouverneure démocrate de New York a interdit que de nouvelles élections se tiennent sous 3 mois, un pari jugé trop risqué pour Donald Trump. Karine Houghton, New York, RFI.
En France, la nécropole du Tata sénégalais rouvre ses portes aujourd'hui après avoir été profanée en janvier dernier.
Situé à Chasselet, près de Lyon, il s'agit d'un cimetière militaire de la Seconde Guerre mondiale où reposent près de 200 combattants africains massacrés par l'armée allemande en juin 40. Une cérémonie y est organisée, l'occasion pour Armelle Mabon, historienne, de dénoncer ce qu'elle considère comme une supercherie mémorielle. Les explications de Sylvie Coffi.
Il y a 3 ans, la ministre déléguée auprès des armées inaugure 2 plaques pour rendre hommage au 25e régiment des tirailleurs sénégalais, ceux qui ont versé leur sang pour libérer la France occupée par les Allemands. Sur ces 2 plaques, 25 noms de tirailleurs sont inscrits. Ils sont présentés comme disparus ou non identifiés et inhumés au sein de cette nécropole. Ce sont des recherches génétiques qui permettent d'identifier ces soldats. L'historienne Armelle Mabon mène l'enquête, saisit le tribunal administratif et découvre que ces recherches génétiques n'ont jamais existé, ce que le ministre sera contraint d'avouer. Armelle Mabon dénonce une supercherie mémorielle.
Ils ont fait ça pour 14 d'entre eux, où ils ont modifié les noms sans passer par la voie normale, réglementaire du procureur de la République qui doit d'abord faire modifier l'acte de décès et après on peut mettre le nom, il faut que le nom soit identique entre l'acte de décès et le nom sur la plaque. Ce n'est pas le cas, c'est pour ça qu'on a du mal même à retrouver les dossiers de ces tirailleurs sénégalais puisqu'ils ont modifié les noms. Pour la mémoire de ces hommes morts pour la France, on ne peut pas quand même faire ce genre de choses.
L'historienne demande donc qu'on mette des plaques qui soient conformes au nom de ces soldats.
Après l'Ukraine, la France est le pays le plus visé en Europe par la guerre informationnelle. C'est ce qu'a révélé le Premier ministre François Bayrou. Il a détaillé les tentatives de manipulation de l'information avec des attaques venant de Chine et de Russie. Une menace intime, proche de nous, qui touche chaque Français dans la mesure où notre société est devenue une société des écrans. Il a mis notamment en garde contre l'intelligence artificielle qui permet à cette manipulation de s'exercer à une échelle jamais atteinte.
Karine Bellicha, nos auditeurs vous retrouvent dans 2 heures pour un nouveau journal. Et nous, nous sommes sur le continent américain pendant les 20 prochaines minutes.
RFI, the world's voices.
Et on prend tout de suite la direction d'Haïti où pour la 2e fois en quelques semaines, un policier kényan a trouvé la mort, victime d'une embuscade tendue par les gangs dans le département de l'Artibonite. Vincent Souriau, les groupes criminels ont aussi mis en scène leur opération macabre.
Il s'appelait Bénédicte Kabirou et dans plusieurs vidéos répugnantes mises en ligne sur les réseaux sociaux, les gangs exposent et profanent son cadavre. Dans cet extrait, un homme qui se réclame de la coalition Vivre Ensemble gifle sa dépouille à plusieurs reprises. Sur le corps inanimé de l'officier kényan, encore en treillis militaire, on aperçoit une plaie par balle au niveau de la gorge qui l'a sans doute tué sur le coup. Que s'est-il passé ? Dans un communiqué, la MMAS, mission multinationale d'assistance à la sécurité, relate le scénario d'un véritable guet-apens. Les groupes armés ont creusé des tranchées sur la route de Savien, attendu qu'une patrouille de la police haïtienne s'enlise et donné l'assaut lorsque les renforts de la MMAS sont arrivés sur place. Le porte-parole de la police dans l'Artibonite nous explique que dans ces zones agricoles, les véhicules blindés de la PNH, lourds et difficiles à manœuvrer, sont particulièrement vulnérables et que si des trous ont été percés sur un chemin, les policiers n'ont pas assez de visibilité pour les repérer à distance. C'est comme ça qu'un premier blindé a été immobilisé et que deux autres véhicules venus le remorquer ont aussi été pris au piège. Les images qui circulent montrent des hommes en train de fêter leur crime devant plusieurs blindés en feu. Des malfaiteurs qui ne cherchent même pas à couvrir leur visage, qui exhibent le matériel et les gilets pare-balles volés à la police et qui interpellent directement le président du Kenya. Si vous voulez récupérer le cadavre de Bénédicte Kabirou, il va falloir négocier avec nous. Le conseil présidentiel de transition promet que sa mort ne restera pas impunie, salue la bravoure et l'engagement du policier kényan, mais entre la méconnaissance du terrain, le manque de renseignements et le défaut de coordination entre les unités, difficile d'ignorer que ce drame illustre une fois encore les lacunes de la couverture sécuritaire en Haïti.
La situation sécuritaire qui continue de se dégrader en Haïti et cela préoccupe la presse du pays que vous avez lu pour nous, Achim Lippold.
Oui, bonjour Anne, bonjour à tous. Effectivement, c'est le thème de l'éditorial de France Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. La situation à Port-au-Prince continue de se détériorer, alors que les habitants de plusieurs quartiers fuient face à l'avancée des gangs, écrit-il. Desprez, Paco, Debussy, d'autres zones sont en proie à un exode massif, tandis que des quartiers comme Turgot et Pétionville s'inquiètent de la propagation de la violence. Pillages et incendies rythment désormais le quotidien et chaque jour, sans affrontement, est perçu comme le prélude à une autre vague de chaos. L'État, en recul, semble incapable de rétablir l'ordre, renforcer un sentiment de délaissement total. Selon le Nouvelliste, le journal rappelle que le président du Conseil présidentiel de transition s'est rendu hier en Jamaïque pour une rencontre avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, mais aucune annonce concrète n'en est ressortie.
Marco Rubio qui a lancé un avertissement au président vénézuélien à propos du Guyana.
Exactement, et l'avertissement, c'est le plus sévère à ce jour contre le Venezuela sur ce sujet, estime en tout cas le journal guyanais Starbuck News. Si Caracas attaquait le Guyana ou les infrastructures d'ExxonMobil dans l'océan Atlantique, les conséquences seraient désastreuses, a déclaré Marco Rubio à une question justement de ce journal. Des propos qui ont provoqué une réaction immédiate du président vénézuélien, c'est-à-dire sur le site de Telesur, de la chaîne Telesur. Nicolas Maduro a rejeté les déclarations du secrétaire d'État américain, les qualifiant de tentative d'intimidation impériale, tout en accusant Marco Rubio de collusion avec l'opposition vénézuélienne. Un sujet qui se partage la une avec le rapatriement des Vénézuéliens par les autorités américaines. Ce vendredi matin, un avion transportant 178 migrants expulsés des États-Unis a atterri à Caracas. Les migrants étaient accueillis par le ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, qui a dénoncé la stigmatisation et de mauvais traitements dont ces migrants auraient été victimes aux États-Unis.
RFI, la radio du monde.
On revient maintenant sur les ambitions, les décisions de Donald Trump qui donnent le rythme de l'actualité dans le monde. Aujourd'hui, l'administration américaine montre ses muscles au Groenland où le vice-président est en visite. Mais un séjour plus court que prévu à Rim et uniquement sur la base militaire de ce territoire.
Oui, tout à fait. Pour la chaîne CNN, le voyage du vice-président prend désormais une tournure plus militaire tout en évitant les manifestations prévues. J.D. Vance recevra donc un briefing privé sur la manière dont les forces américaines stationnées en Groenland ont renforcé les intérêts de sécurité du pays Et d'après CNN, le message de J.D. Vance envers les Européens pourrait être aussi ferme que celui qu'il a déjà envoyé lors de son discours de Munich. Le vice-président devrait souligner notamment les critiques américaines envers le Danemark, notamment sur le traitement des Groenlandais et l'état des infrastructures sur l'île. Des manifestations avaient été prévues effectivement dans les villes de Nuuk et de Sisimiut, mais le fait que la visite se limite seulement à la base militaire évite finalement, écrit CNN, les incidents potentiels avec le public ou les officiels gouvernementaux.
Autre sujet à lire dans la presse, le rôle des services de renseignement sous Donald Trump, des services de moins en moins indépendants.
L'éditorial du Washington Post critique la manière dont les responsables du renseignement américain ont présenté leur évaluation annuelle des menaces devant le Congrès, de menaces qui pèsent sur les États-Unis. C'était mardi et mercredi dernier. La directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, et le directeur de la CIA, John Ratcliffe, ont tous les deux minimisé l'importance de la discussion sur la messagerie Signal à laquelle un journaliste américain a été ajouté par erreur. Une attitude qui s'inscrit, selon le Washington Post, dans une tendance plus large de l'administration Trump à remodeler la communication des services de renseignement. Bien que les analystes restent professionnels et fidèles au fait, eh bien, la hiérarchie semble adopter la présentation des menaces aux priorités politiques du président, écrit le Washington Post. L'évaluation des menaces de 2025 met donc en avant des priorités qui reflètent les intérêts de Donald Trump, notamment en classant les cartels de drogue comme la menace principale. La différence avec l'administration précédente qui jugeait leur danger moins important. De même, l'accent mis sur le Groenland, on vient d'en parler, dans la section des menaces sur la Chine et la Russie coïncide, selon le Washington Post, avec l'intérêt marqué de Donald Trump pour la région.
La presse Arim s'interroge aussi sur la stratégie des démocrates face à Donald Trump.
Oui, plusieurs spécialistes et journalistes s'expriment sur le sujet dans le New York Times. Ils mettent en lumière les faiblesses du leadership démocrate face à la menace représentée par Donald Trump. La sociologue Zeynep Toufeksi critique le manque de cohérence entre le discours alarmiste des démocrates et leurs actions, notamment leur gestion, selon elle, maladroite de la candidature de Joe Biden en 2024. Selon elle, l'incapacité des responsables démocrates à reconnaître la gravité de la situation et à structurer une opposition efficace a empêché une véritable résistance face à Donald Trump. Ce vide de leadership compromet aujourd'hui la capacité du parti à s'organiser et à élaborer une stratégie contre le président américain. Le chroniqueur Nicholas Kristof, de son côté, souligne un autre problème. Les démocrates insistent sur la défense de la démocratie, mais ce n'est pas un argument qui touche suffisamment les électeurs indécis. Pour convaincre, dit-il, il faut s'adresser aux préoccupations concrètes des citoyens, comme le coût de la vie ou l'accès aux services publics. Le journaliste illustre son propos avec un exemple dans l'État d'Oregon, où une famille est devenue critique envers Donald Trump après avoir rencontré des difficultés avec la sécurité sociale. Selon lui, c'est ce type de problème du quotidien qui mobilise réellement les électeurs. Anne.
La revue de presse signée Arim Lipold. Les États-Unis et la politique de Donald Trump, dont la guerre commerciale fait toujours beaucoup réagir, notamment au Canada, où les dernières annonces sur des taxes imposées aux véhicules importés viennent perturber la campagne électorale en cours. Nafi Alibert.
Il devait amorcer sa campagne électorale à Québec, mais c'est à Ottawa que Mark Carney a finalement dû passer sa journée d'hier, forcé de convoquer une réunion d'urgence avec son cabinet sur les relations canado-américaines pour riposter aux droits de douane imposés la veille par les États-Unis.
Nous reprendrons avec force.
Le fossé entre les deux voisins se creuse et Mark Carney affiche clairement ses distances avec l'administration américaine actuelle.
Il est évident que les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable.
Son discours reste ferme et sans équivoque.
Mais il n'y aura pas de retour en arrière. Le prochain gouvernement et tous ceux qui suivront aura une relation fondamentalement différente avec les États-Unis.
Le Premier ministre canadien devrait discuter de la question au téléphone avec le président américain d'ici samedi. Ce sera une première puisque les deux dirigeants ne se sont toujours pas parlé. Pour l'heure, Mark Carney n'a pas précisé quelles mesures concrètes seront prises contre les États-Unis. Il doit rencontrer aujourd'hui ses homologues des différentes provinces pour en discuter. Les tarifs de 25% appliqués à l'industrie automobile, eux, entreront en vigueur la semaine prochaine, en plus d'autres droits de douane que Donald Trump avait suspendus jusqu'au 2 avril. Nafia Liber, Montréal, RFI.
RFI, les voix du monde.
La littérature des Caraïbes à l'honneur en ce moment à Kigali lors des rencontres internationales du livre francophone. Lucie Mouillot, ce rendez-vous est vu comme une occasion de développer le lien avec les auteurs du continent.
Quatre auteurs caribéens mis à l'honneur à Kigali, une littérature qui a par le passé largement marqué le continent, affirme Kofi Kwaoulé, écrivain ivoirien.
Pendant longtemps, on a été initié à cette littérature à travers Césaire, à travers Fanon, Maryse Condé qui a passé une partie de sa vie en Afrique aussi. Donc oui, ce contact a toujours existé. Il y a encore des points de rencontre, des histoires communes.
Des histoires communes, de par le lien de descendance des Afro-Caribéens avec les populations africaines, réduites en esclavage et déportées vers les Antilles. Entre le 16e et le 19e siècle. Des racines évoquées dans certains écrits d'auteurs caribéens, Philomé Robert, journaliste et écrivain haïtien.
Dans Vagabondage éphémère, mon personnage Gabriel se retrouve sur le continent africain et ce voyage lui permet de faire connaissance avec sa propre africanité, avec sa propre histoire. Et donc le parcours de Gabriel a permis de faire un certain nombre de recherches sur l'histoire haïtiano-africaine. Ça a été une volonté de ma part que ça soit là.
Pour certains auteurs, les connexions entre le continent et les Caraïbes vont plus loin. Joe Souli, haïtien et américain, a ouvert une maison d'édition à Kigali.
On est ici en Afrique, on fait des connexions. On est en train de bâtir ce réseau d'écrivains caribéens et africains. C'est très important pour nos écrivains caribéens d'origine africaine.
Des échanges entre auteurs, mais aussi avec le public tout au long des rencontres du livre francophone à travers des ateliers d'écriture et des interventions dans des écoles. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Ici Isla Bocaberria, autrice martiniquaise, dont le premier roman, La prophétie des sœurs serpents, est sorti en 2022. Elle est spécialisée sur les thèmes de la mémoire, de la décolonisation et de l'histoire de la société afro-caribéenne. Et elle défend la mise en avant des liens entre les Caraïbes et le continent africain.
Ce qui est fascinant avec l'identité caribéenne, c'est justement qu'elle est africaine et en même temps, elle est aussi quelque chose de complètement neuf qui s'est reconfiguré, recomposé à partir de mélanges inouïs dans l'histoire de l'humanité, qui ont été d'une violence terrible, mais aussi qui ont donné lieu à la créativité humaine sans précédent, je pense. On a eu 200 peuples africains différents qui ont été déportés en Martinique, donc nous sommes une espèce de projet panafricain avant l'heure, j'ai envie de dire. La mémoire populaire, elle a conservé cette trace des origines africaines dans nos chants, dans nos danses, dans nos traditions culinaires, dans notre spiritualité. On a en fait ces bourgeons d'Afrique qui sont encore très très présents, même quand les gens n'en sont pas forcément conscients, de part et d'autre de l'Atlantique. Se tourner vers les mondes africains, vers les cultures africaines précoloniales, ça peut être très enrichissant pour renouveler la façon de penser le monde, en fait. Donc je trouve ça vraiment fascinant d'explorer cette complexité des identités noires au pluriel.
Isis Labo Kaberia au micro de notre correspondante au Rwanda, Lucie Mouillot.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Serge Massot. C'est le dernier jour aujourd'hui de la visite en Martinique de la ministre française déléguée au tourisme.
Oui, Nathalie Delatte doit donner le coup d'envoi de la semaine des métiers du tourisme. Hier, elle a visité deux structures hôtelières et elle a insisté sur la nécessité de renforcer l'offre d'hébergement. Message reçu par le maire de la commune du Marin, José Mirande. Il est au micro de Pedro Monerville de Martinique la Première.
L'aménagement du front de mer qui est prévu très bientôt, ce qui commence déjà dès cette année, qui va durer 2-3-4 ans, parce que c'est un vaste programme, de donner cette façade maritime à toute la Martinique. Donc, et ça nous a permis de mener une réflexion profonde sur la mer, sur la baie. Donc il y aura dans l'année en cours un aménagement de la baie, interdiction de mouillage forain, organisation du mouillage. Mais aussi nous avons dénombré sur le territoire pas moins de 22 vierges, des fois qui datent de siècles. Nous sommes en train de mener un projet de rénovation et les tour opérateurs sont très friands de cette démarche.
Des travaux pratiques pour des élèves du lycée hôtelier du Gosier en Guadeloupe. Hier, ils ont installé un restaurant éphémère dans les locaux du centre d'hébergement et de réinsertion sociale de Pointe-à-Pitre. Reportage de Peggy Robert de Guadeloupe la Première.
On se croirait dans la cuisine d'un grand restaurant. Une vingtaine de lycéens s'agitent en tous sens dans les petits locaux de l'association Maison Saint-Vincent en plein cœur de Pointe-à-Pitre. Emma, Christy, Gabriel, Alexandre et Jalène sont élèves de première au lycée hôtelier de Gosier et ils ont bien conscience que cette expérience est unique pour eux.
Je trouve que c'est une opportunité de développer certaines compétences sociales qui changent d'ordinaire du cadre habituel où nous sommes habitués à être en restaurant avec une certaine clientèle qui ne varie pas souvent.
Pour une fois, les usagers de l'association sont attablés et déjeunent ensemble.
C'est agréable pour tout le monde.
C'est le lycée hôtelier enfin, qui nous propose ça, donc c'est bien quoi.
Pantalon noir, chemise blanche, gilet bleu ciel assorti à la cravate pour les serveurs. Les élèves sont impeccables sous l'œil exigeant de leur professeur de cuisine, Émile Promeneur.
Je leur ai posé une question, qu'est-ce que je peux faire dans mon métier plus tard pour aider mon pays ? Et on est arrivé sur le projet.
Les convives sont très touchés par l'attention que leur portent les lycéens.
Ils se donnent l'appel de préparer en amont pour nous et de venir nous servir. Ils auraient pu être ailleurs, donc on ne peut qu'être reconnaissant pour ça.
Et puis en Guyane, l'association Groupe SOS Guyane organisait des rencontres sportives hier à destination des personnes en situation de handicap. Judo, volley, pétanque, rameur et sarbacane au programme. L'organisatrice Barbara Richard.
On a 150 participants, super ambiance, 5 associations du secteur médico-social représentées, des sportives et des sportifs à fond. Le but, c'est de sortir de son établissement et c'est de se rencontrer. Et quand on est en situation de handicap, les transports sont souvent un frein et l'adaptation du lieu. Et là, on a tout aménagé et tout le monde peut être présent aujourd'hui. Alors, on a 5 épreuves. On a du parajudo, de la fléchette pendulaire, de la boccia, du volley, du rameur. C'est la première journée. On veut vraiment mobiliser et sensibiliser la population. Donc, on a une journée en mars, une journée en juin et une journée en novembre.
Des propos recueillis par Jean-Gilles Assard de Guyane La Première. Fin de ce journal. Bonne journée sur RFI.
Merci Serge Massot. On va se quitter avec un peu de musique. Mariana Freus et ce titre Gabriella à découvrir en ce moment dans la playlist RFI.
Qui est elle, cette moça tão bonita qui commande ma vie, c'est ma Gabriella. Quanto manhã de domingo na Antaro, quanto rio e a flor mais amarela. E quando ela ri, sinto cócegas na palavra. Quando ela sorri, minha alma sorri de graça. Sei que ela me falou que pra ela eu sou como a praia. Veja bem, coração, uma praia sem sol não é nada. O amor da gente é dente com dente, é rosa e preto, mas comanda a minha vida, essa é minha Gabriela.
Gabriela.
Tão bonita quanto manhã de domingo na Antaro, quanto rio e a flor mais amarela.
Amarela.
Eu falei pra ela que o contorno dela é lareira. Nessa casa tão sua presença me esquenta inteira. O amor da gente é dente com dente, é rosa e preto.
Amor da gente é desconto.
Mariana Froys et ce titre Gabriella que vous pouvez réécouter sur la playlist RFI, sur RFI Musique. Et c'est ainsi qu'on se quitte pour cette semaine. Rendez-vous lundi à partir de midi, temps universel. Et puis tout de suite, c'est Littérature sans frontières avec Catherine Fruchon-Toussaint. Très bonne journée à tous.
Du 21 au 30 mars, le festival Ciné Latino Rencontre de Toulouse ouvre les portes cinématographiques de l'Amérique latine en 140 films et un large panorama de la production récente. Au programme, compétitions, découvertes, focus, documentaires, sélection spéciale pour le jeune public et une thématique mise à l'honneur, les voix et regards des cinéastes autochtones. Le festival Ciné Latino du 21 au 30 mars. Plus d'informations sur cinelatino.fr en partenariat avec RFI.